France Culture.
Le magazine du week-end, Antoine Dulster.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Ce magazine a été préparé par Benjamin Trèves et Léa Varin, à la réalisation Marie Placé, à la technique Alexandre Dang. Au programme de notre émission ce dimanche, le plan d'économie annoncé par François Bayrou cette semaine, un plan auquel il a souhaité donner une dimension historique.
Il est des moments dans l'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Et ce moment est un de ceux-là. Il ne s'agit plus de savoir seulement quelles sont nos exigences, quelles sont nos préférences, mais qui nous sommes. Alors je ne vais pas refaire sur cette question des finances publiques la longue histoire de notre étrange défaite, comme disait Marc Bloch, pour un autre temps. Il y a plus de 50 ans que notre pays... tout courant politique confondu, n'a pas présenté un budget en équilibre.
C'était ce mardi 15 juillet. Le Premier ministre dévoilait les grandes lignes d'un programme d'assainissement des finances publiques. Objectif, près de 44 milliards d'euros d'économies que les services de l'État pourraient trouver, dixit François Bayrou, par une année blanche sur les prestations sociales et les retraites, la suppression de 2 jours fériés, une contribution de solidarité, une chasse aux niches fiscales, entre autres. Des mesures qui n'ont pour l'instant rien de définitif, mais ce catalogue donne le ton de ce que pourrait être, à l'automne, un plan de rigueur version 2025-2026. Une telle hypothèse ne serait pas une première dans notre histoire politique. Les plans de rigueur ou d'austérité, selon la terminologie du moment, ont marqué toutes les époques et laissé leur empreinte sur toutes les générations politiques. Sous François Mitterrand, le tournant des années 82-83 fut synonyme de retour au réel pour une partie de la gauche. Quelques années plus tôt, Raymond Barre déjà dénonçait à grands cris une France qui vit au-dessus de ses moyens. Mais la rigueur, c'était aussi le plan Pinay-Rueff en 1958, dès les débuts de la Ve République. Ces épisodes d'efforts collectifs, avec leurs différences évidemment, peuvent-ils nous éclairer sur les ressorts de la situation que nous connaissons aujourd'hui, qu'implique la rigueur d'une époque à l'autre ? Voilà beaucoup de questions dont nous parlons avec 3 invités. Mathieu Fula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris. On vous doit plusieurs ouvrages sur l'histoire de la gauche publiés aux presses de Sciences Po, notamment Les socialistes français et l'économie, ainsi que Michel Rocard, Premier ministre, La gauche et le pouvoir. Laure Quenouël-Corre, vous êtes avec nous à distance, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre de recherche historique de l'EHESS. Vous avez publié Le déni de la dette, une histoire française chez Flammarion. Et Jean Perlevade, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire, chef d'entreprise, essayiste. Vous avez travaillé auprès de Pierre Mauroy au début des années 80, un gouvernement et une période dont nous allons parler dans cette émission. Vous avez publié Réformer la France aux éditions Odile Jacob. Alors Jean Perlevade, c'est avec vous, si vous le voulez bien, que je souhaiterais débuter cette émission. Que retenez-vous du ton de gravité des mots employés par François Bayrou ce 15 juillet? L'heure est-elle si dramatique?
Oui, sur le diagnostic, je pense qu'il a raison. Nous sommes dans une position tout à fait préoccupante, et si nous ne résolvons pas nos problèmes, notamment de finances publiques, mais ce ne sont pas les seuls, nous finirons dans le chaos. Alors, mais sur le diagnostic, oui. Sur la recette, sur la solution, je la trouve insatisfaisante.
Dans Les Échos, vous écrivez « Une thérapie de choc serait mieux adaptée à notre situation. Pour résoudre nos problèmes, nous serons contraints d'augmenter le taux de prélèvement fiscal et social. » Est-ce que vraiment il n'y a plus d'autres solutions, Jean Perlevade?
Nous avons un déficit de plus de 5% du PIB, presque 200 milliards d'euros à trouver. Et ce déficit, pour l'instant, il est dû intégralement, quand on regarde les choses de près, à nos dépenses dites de protection sociale, qui n'ont pas été financées par autre chose que la dette depuis des années et des années. Donc, il est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a allégé, par exemple, les cotisations sociales, aussi bien des salariés que des entreprises, ce qui était très bien et nécessaire pour améliorer notre système productif. Mais l'État a dit « vous inquiétez pas, je paye ». Comment il a payé ? En augmentant la dette. Donc, nous sommes dans une sorte de déni de réalité très profond, et si nous n'y mettons pas fin, eh ben, nous irons vers le chaos. Ce qui m'inquiète dans la solution de François Bayrou, bien entendu, je souhaite que le budget soit voté, bien entendu, je considère que une censure serait absolument stupide et catastrophique, mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucun homme politique, ni même François Bayrou, ni ses opposants, ni ses soutiens, il n'y a aucun homme politique qui soit capable de tracer une trajectoire résolvant le problème d'ici 2 à 3 ans de manière construite, en disant « voilà ce que nous allons faire » et en expliquant aux Français pourquoi on va faire ceci ou cela. Donc oui, je pense que la situation est suffisamment grave pour qu'on prenne des mesures relativement dures, plus fortes que celles que François Bayrou recommande, étalées sur 2 ou 3 ans, mais avec toutes les explications voulues, pour que tout le monde comprenne. Et en l'absence de cette explication, qui est toujours inexistante, je pense que même si le budget est voté, nous serons dans le chaos au budget suivant.
Alors, Laure Quesnoël-Corr, vous êtes-vous spécialiste de la dette en France. Que vous inspirent les objectifs affichés par François Bayrou, puisqu'il y a une insistance particulière sur cette question de la dette, avec donc l'objectif de la stabiliser en 2029. Pour rappel, donc la dette publique de la France aujourd'hui, c'est plus de 3300 milliards d'euros. Donc, que vous inspirent ces objectifs et cet affichage par le Premier ministre ?
Cet affichage n'est pas nouveau de la part de François Bayrou, parce que je rappellerai que c'est le seul candidat à l'élection présidentielle en 2007 qui l'avait noté dans son programme. La baisse de la dette publique, c'était le seul qui en avait parlé. Donc on sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est pas du tout lié à une question purement d'actualité. Il est conscient de la difficulté aussi de le faire. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il dramatise énormément cette question, parce que les plans précédents ont eu du mal à se mettre en place, et les budgets précédents, n'en parlons pas. Donc cette idée du poids des mots est important. Le fait de donner une dimension historique à son plan, c'est pour frapper les esprits, l'opinion publique, et leur montrer la gravité de la situation. Maintenant, je rejoins ce que dit Jean Perlevade, c'est pas évident que cela suffise à stabiliser les finances publiques françaises. Et il y a eu récemment même des mesures qui ont été prises qui étaient beaucoup plus drastiques, comme le gel de traitement des fonctionnaires. Il n'y a pas de réforme de structure, pas vraiment de réforme sur la dépense de l'État. On ne s'attaque pas
Alors, ce qui est annoncé quand même, c'est 30 milliards de réduction de dépenses de l'État, justement sur les 44 milliards.
Oui, mais est-ce que ce sont des réformes, une réduction ponctuelle, ou est-ce que c'est une réduction avec suppression d'organismes ? C'est pas défini. Donc moi, en fait, je pense que l'idée de dimension historique donnée par François Bayrou à son plan, elle pourrait avoir un sens s'il réussit à mettre en œuvre cela. Et c'est là toute la question. C'est de tous les plans dans l'histoire, on va relever ceux qui ont réussi avant tout. Voilà, parce qu'on peut annoncer des plans et puis en fait, il tombe à l'eau. Voilà.
Alors Mathieu Fula, François Bayrou semble donc vouloir inscrire son action dans le temps long. Il a pris date et il a rappelé dans son intervention que la France n'a pas eu de budget à l'équilibre depuis une cinquantaine d'années. Est-ce que cet appel à l'effort peut être entendu ? Est-ce que cette référence au temps long est suffisante pour mobiliser justement autour de cet effort ?
Oui, la référence au temps long, ce qui est intéressant, c'est que y a des résonances avec des expériences précédentes dans le sens où on dramatise le problème. Alors là, il est sérieux, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est sûr que chaque fois qu'un homme politique a voulu proposer un plan de rigueur, il s'est forcé d'expliquer on est au bord du gouffre, il faut réagir, sinon ça sera le chaos. Donc sur ça, François Bayrou s'inscrit totalement dans la lignée. Après, pour rebondir dire sur les propos des deux premiers intervenants. Moi, il y a quand même deux choses qui me frappent en tant qu'historien. Le premier, c'est que il y a quand même eu deux énormes chocs conjoncturels au XXIe siècle qui ont contribué à creuser la dette publique en France. Le premier, c'est la crise financière de 2007-2008. Et le deuxième, c'est le Covid, où on a passé à la politique du quoi qu'il en coûte. Donc, toute cette dette qui a augmenté en 2007, je crois qu'on était autour
de... À chaque fois, on était sur une dette qui est passée au-dessus de 2000 milliards, puis au-dessus de 3000 milliards. Donc, c'était des chiffres
repères. Exactement. Et en 2007, donc au moment où Nicolas Sarkozy est élu président, on est à 65%. Et la deuxième chose qui me marque par rapport au XXe siècle, c'est la structure de notre fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de moyens que nous n'avons plus, mais ce sont des choix politiques. Et on sait très bien que pour faire baisser une dette publique, ça passe davantage par les recettes apportées par la croissance ou par la fiscalité que par la coupe des dépenses qui, généralement, ont tendance à déprimer l'activité, en tout cas l'investissement privé.
Alors, Jean Perlevade, le détail des mesures pour l'instant est renvoyé au budget, donc à la rentrée, même en octobre. Au-delà de l'ambition ou du manque d'ambition de ce projet d'économie dont vous avez parlé, un accord politique peut-il être trouvé d'ici là, précisément en ayant en tête cette urgence et cette priorité de rétablir les finances publiques ?
Je ne crois pas, et c'est pour ça que je suis très pessimiste, je ne crois pas parce que je constate, je lis régulièrement, j'ai des contacts avec un certain nombre d'hommes politiques, je constate que pour l'instant, il n'y a pas un seul discours politique qui aille plus loin que celui de François Bayrou, c'est-à-dire qui structure une vraie action de fond sur les finances publiques et sur l'appareil productif français à l'horizon de 2 ou 3 ans. Rien, c'est absent, personne.
Alors, donc, pardonnez-moi, je vous en prie, continuez.
Donc, ce qu'on voit à droite, c'est rien, c'est une absence totale de propos pour l'instant, à part la mise en cause de l'immigration qui a rien à voir avec l'ampleur de notre déficit, et accessoirement d'ailleurs, d'un point de vue productif, on a besoin des immigrés, ou en tout cas d'un certain nombre d'entre eux, et à gauche, je vois avec terreur sortir la fantaisie absolue, l'illusion, l'absurdité de ce qu'on appelle la taxe Zucman. Voilà.
C'est-à-dire, cette taxe Zucman, donc sur les ultra-riches, en quoi ce serait une absurdité, justement ?
Les gens qui parlent de ça, ils oublient une chose simple, c'est que le Conseil constitutionnel français s'est exprimé à de nombreuses reprises, notamment en 2012, au moment du quinquennat de François Hollande, sur la fiscalité, sur l'égalité devant l'impôt, sur le droit de propriété. Et à la suite de tout ça, on a mis des limites constitutionnelles sur le prélèvement d'argent sur les plus riches. Donc, vous avez dans la loi ce que les Français ne savent pas. La loi explique que hier, c'était l'impôt sur la fortune, aujourd'hui, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Soi-disant, c'est fait pour taxer les plus riches, mais la loi constitutionnelle, si je puis dire, c'est que les prélèvements sont plafonnés. Parce que le Conseil constitutionnel considère que au-delà d'un certain pourcentage du revenu prélevé en fiscalité, on porte atteinte, l'impôt devient confiscatoire.
Confiscatoire, c'est un mot effectivement qu'on entendait, voilà, notamment à l'époque aussi de mesures proposées par François Hollande. Alors, pardonnez-moi, je fais juste réagir Laure Kenwell-Corr à votre propos, aussi pour vous demander, Laure Kenwell-Corr, comment appeler à un sacrifice collectif, hein, un sacrifice difficile à faire accepter dans le contexte politique que nous connaissons avec une assemblée justement sans majorité.
Oui, c'est un peu le sujet, en fait, sur lequel risque de se heurter François Bayrou. C'est-à-dire que quand on voit les plans qui ont réussi dans l'histoire, notamment bon celui de 1958, hein, porté par le général de Gaulle, et sa légitimité, non seulement à l'Assemblée, mais également, il avait la légitimité du référendum sur la Constitution de 58 qui a été voté à 80%. Donc, si vous voulez, on est loin du compte, là, pour François Bayrou, et c'est important d'avoir cette légitimité. Et même quand on a une majorité à l'Assemblée, il y a un niveau de conflictualité sociale en France tellement important que les gouvernants hésitent à prendre des mesures un peu courageuses et un peu drastiques, et quitte à se retrouver avec des grèves très très importantes. Et en France, donc, on a ce sujet, et je pense à ce moment-là au plan Juppé, hein, qui
donc à 95 effectivement
en 1995 qui lui voulait réformer le trou de la Sécu. On s'attaquait à l'époque au trou de la Sécu, et il a voulu réformer régime des retraites, des régimes spéciaux de retraite, et faire des réformes qui touchaient justement aussi les fonctionnaires et les fonctionnaires. Et donc, ça a été un tollé général. Il a été obligé de retirer une grande partie de son plan. Maintenant, ce qui est resté, c'est que le financement de la sécurité sociale a été un peu mieux organisé avec la loi de finances de la sécurité sociale et la création de la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, et la création de la caisse de la dette sociale. Donc, tout ça pour dire que c'est très compliqué en France aussi
Il y a cette dimension politique, cette conflictualité, effectivement, voilà, dont vous parlez, qui fait partie, effectivement, de l'équation pour équilibrer ces finances publiques. Alors, Mathieu Fula, je souhaiterais vous faire réagir au propos l'ex-président de la République, François Hollande, dans les colonnes du Monde cette semaine, qui réagissait justement au plan proposé par François Bayrou. François Hollande dit que la dette est le résultat de la politique menée depuis 2017 avec des baisses d'impôts inconsidérées, conjuguées à un défaut de maîtrise de la dépense publique après le Covid-19. Est-ce que François Hollande, Mathieu Fula, a raison de rappeler, notamment pour ce qui concerne son cas, que la gauche peut aussi être associée à un sérieux budgétaire, et ce sérieux budgétaire, on n'a pas beaucoup vu ces dernières années?
Alors, il a raison de faire appel à l'histoire sur ce point, dans le sens où, depuis les années 50, et la figure un peu tutélaire de Pierre Mendès-France, qui a inspiré à gauche beaucoup de socialistes qu'on a identifiés à la rigueur, des gens comme Jacques Delors, des gens comme Michel Rocard, qui se sont réclamés de son héritage, ont expliqué que si la gauche voulait exercer le pouvoir dans de bonnes conditions et de manière durable, elle pouvait pas biaiser avec les finances publiques ni avec le marché. Donc sur ce point-là, il a raison. Et lui-même, d'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir en 2012, avait poursuivi une politique fiscale dans la tradition de la rigueur de gauche, j'ai envie de dire, où on fait contribuer davantage les plus aisés que les couches populaires. Ce trend, il s'interrompt en 2014 avec l'arrivée comme Premier ministre de Manuel Valls et le pacte de compétitivité. Et là, on arrive sur quelque chose d'un peu différent, qui s'inscrit moins dans une tradition. J'avais justement qui me venait en écoutant les intervenants, mais sur la fiscalité. Je pense que cette question de la rigueur, il faut la replacer dans un contexte international. Je pense qu'on en reparlera, mais juste sur la question fiscale. Depuis les années 80, en Occident, on est sur une tendance à la baisse de la fiscalité sur les très hauts revenus du patrimoine et les très hauts revenus salariaux. Le grand débat qui agitait Jospin et la gauche plurielle à l'époque, et des organisations comme ATTAC, c'était la taxe Tobin. Aujourd'hui, c'est la taxe Zucman. Mais on voit que politiquement, c'est extrêmement difficile de revenir sur ce trend lancé dans les années 80 de baisse de la fiscalité sur les très hauts revenus.
Il y a un effet cliqué sur cette... question, peut-être. Alors, pour évoquer la rigueur d'une époque à l'autre, je vous propose d'évoquer un épisode historique majeur, un tournant qui a marqué le premier mandat de François Mitterrand.
Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Depuis 3-4 ans, la France est dans cette situation. Il faut que cela change et vite. Il y va de notre indépendance nationale, de la préservation de notre niveau de vie et de la réussite de l'effort que nous faisons pour moderniser notre appareil de production afin de demeurer dans le peloton de tête des nations.
Est-ce que la purge ne risque pas d'être trop forte? En d'autres termes, est-ce que les Français ne risquent pas de désépargner pour consommer et que vous en arriviez à des situations opposées à celles que vous souhaitiez?
Nous avons conçu ces mesures le plus possible en diminuant les déficits publics, le moins possible en demandant directement aux revenus des ménages. Nous avons totalement épargné les revenus les plus modestes. Nous sommes donc toujours dans le droit fil de l'esprit de solidarité qui caractérise la politique du gouvernement depuis mai 1981.
Cette voix, donc, c'est celle de Jacques Delors. Jacques Delors qui aurait eu 100 ans aujourd'hui, le 20 juillet. Delors, donc, ministre de l'économie et des finances du gouvernement Mauroy, il s'exprimait ici le 25 mars 1983 sur TF1. Jean Perlevade, ce tournant de la rigueur dont on a énormément parlé, c'était l'aboutissement d'une réflexion entamée en réalité depuis les débuts du septennat de François Mitterrand. Le gouvernement était divisé. Vous étiez à l'époque au cabinet de Pierre Mauroy, Premier ministre. Quels éléments ont précipité les choses et forcé le gouvernement à faire pencher la balance du côté de la rigueur, Jean Perlevade?
Nous savions dès le début, dès le premier jour, que c'était un virage inéluctable, pour une raison simple, c'est que pour mettre en application les mesures, le programme présidentiel de François Mitterrand, on a fait une relance de nature keynésienne, si je puis dire, à un moment où le monde entier était en récession. Le monde entier est entré en récession parce que à l'époque, après les deux chocs pétroliers, il y avait un taux d'inflation très élevé. Il y avait un taux d'inflation supérieur à 10% aux États-Unis. Et il y a un président de la Fed américaine, à l'époque, Paul Volcker, qui, peur de l'indépendance de la Fed, qui est mise en jeu aujourd'hui, hein, mais Paul Volcker a fait monter les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine à 20%. Donc, la France, ayant un programme de relance, avec une inflation qui était à 14% quand on est arrivé à Matignon, avec un monde en récession, donc notre relance, elle s'est traduite par quoi? Par un déficit accru de notre balance commerciale. À l'époque, il n'y avait pas d'euro. Le franc était la monnaie française. Nous avions des sorties de capitaux massives, ce qui fait que nous n'avions pas de quoi payer un certain nombre de choses que nous devions payer au niveau international. Donc nous étions, comment vous dire, vous voyez ce qui est arrivé au Venezuela ou en Argentine. Donc si on n'avait rien fait, on le savait depuis le premier jour, eh ben, nous l'avions dit d'ailleurs à Pierre Mauroy, si on réagit pas, tu peux prendre ton hôtel et ton avion pour aller discuter avec le FMI. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savions qu'il fallait mettre en place les mesures présidentielles, du programme présidentiel, on pouvait pas faire autrement. On l'a fait. Tout était terminé dans les 6 premiers mois. À la fin 81, toutes les mesures du programme présidentiel ont été mises en œuvre. Et donc, dès le début d'évaluation, d'ailleurs, en octobre 81, parce que pour résoudre nos problèmes internationaux de paiement, de manque de ressources, etc., de déficit, il fallait dévaluer. Donc, on a dévalué en octobre 81. On a raté la dévaluation de 81. Donc, dès janvier-février 82, Pierre Mauroy savait qu'il fallait changer de politique et il nous a demandé en janvier ou février 82 à ses deux principaux économiques moi-même et Henri Guillaume, il nous a dit « faites-moi une note pour le président ». Et ça a été, donc, dès février 82, la mise au point du premier virage, qui est très important, qui est celui de juin 82.
Alors Jean Perlevat, je vous redonne la parole dans un instant, mais je souhaiterais faire réagir Mathieu Fula. Donc ce tournant de 83 qui s'amorce en réalité dès 82, et un gouvernement Mauroy qui l'assume, qui revendique, y compris cette rigueur.
Oui, Jean Perlevat, il a tout à fait raison de déconstruire ce mythe de socialiste qui serait rêvé au pouvoir sans comprendre les effets d'une relance keynésienne dans un monde effectivement globalement en récession. Et il a aussi tout à fait raison de souligner le poids de l'international. Aujourd'hui, ça serait les droits de douane et Trump. À l'époque, c'était le choc Paul Volcker qui a été bien expliqué. Ce qui est important aussi, c'est de voir que ce tournant, donc il est à la fois très progressif. Il est pris dès la fin de l'année 80. Vous parliez de Jacques Delors tout à l'heure. Jacques Delors disait, ça y est, on a accordé aux Français la part du rêve. Après des années d'austérité sous Raymond Barre, on a augmenté le minimum vieillesse, on a augmenté le SMIC, on a augmenté les allocations familiales, la retraite à 60 ans. Donc après toutes ces mesures, maintenant, il faut gérer avec rigueur. Mais le mot rigueur, il est déjà présent dans le discours d'investiture de Pierre Mauroy à l'été 1981. Après, là où c'est intéressant, et je pense que ça peut faire réfléchir sur aujourd'hui, c'est que le tournant de 82, fin 81, il n'est pas lié qu'à des raisons économiques et de logique économique. Il y a deux autres raisons qui sont fondamentales. La première, elle est très politique. Ça faisait 23 ans que la gauche n'avait pas exercé le pouvoir. C'est la première fois qu'un gouvernement de gauche arrive au pouvoir sous la Ve République. Et François Mitterrand, comme Pierre Mauroy, ils avaient une obsession, c'est durer. Ne pas réitérer les erreurs du Front populaire, faire quelques réformes sociales et chuter. Donc pour durer, il fallait avoir la confiance des investisseurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est moins connu, mais il est tout aussi important, il est géopolitique. Dans les années 80, début des années 80, on est dans un durcissement de la guerre froide. C'est la crise des euromissiles en Europe. Il y a une peur de la sécurité. Et l'idée de faire converger la politique économique de la France vers celle de l'Allemagne de l'Ouest, qui est vraiment le modèle de référence pour tous les décideurs, y compris les socialistes, c'était aussi un moyen de s'assurer que l'Allemagne de l'Ouest soit bien arrimée au bloc atlantique et qu'au moment où est prise la décision d'installer des missiles américains à Berlin-Ouest pointés sur le monde soviétique, eh bien, tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Alors, Laure Kenwell-Corr, quelle était la signification de ce moment 82-83? Est-ce que c'est un retour au réel pour une partie de la gauche? Il y avait aussi une pression de l'extérieur avec une pression qui venait à la fois de l'Europe, du FMI.
Tout à fait. Donc, pour répondre à votre question, je dirais effectivement que c'est intéressant parce que c'est le retour de la gauche du gouvernement, hein, et montrer que la gauche est capable de mener une politique, rigoureuse. Et effectivement, ça va donner ensuite la possibilité à d'autres gouvernements de gauche social-démocrate d'exister. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur ce plan. Et c'est vrai qu'il faut insister sur le contexte international, mais il faut quand même dire que quand même le programme mis en œuvre entre 1981 et 82, c'était plus qu'une politique de relance. C'était une politique. Il y avait beaucoup de réformes structurelles qui ont accru le périmètre de l'État, notamment les nationalisations très importantes de 39 banques et de grands groupes industriels qu'il a fallu en plus financer parce qu'ils étaient en déficit d'investissement. Plus toutes les mesures sociales, tout cela a accru énormément le budget, le déficit budgétaire et la dette publique. Donc c'est vrai que on peut dire que la politique de Paul Volcker a joué un rôle, mais franchement aussi il faut quand même reconnaître que les déficits publics étaient aussi dus au programme, la mise en œuvre du programme de François Mitterrand. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Et pour compléter ce qui a été dit aussi, je voudrais dire que le tournant c'est aussi le tournant européen, parce que le choix de mars 83 c'est aussi, et à mon avis en priorité, le choix de rester dans le système monétaire européen. Et c'était la seule solution, c'était justement de vis-à-vis des Allemands, c'était de mettre en en œuvre un programme de redressement budgétaire, parce que sinon, c'était pas possible de... Le franc risquait de sortir du SME, et ça, je pense que François Mitterrand, pour lui, c'était extrêmement important de... ce choix européen était fondamental. Voilà. C'est alors, ce que je voulais ajouter.
Mais alors, Jean-Pierre Levade, au-delà des divisions hein, dont parlait justement Laure Kenwell-Corr, que vous évoquiez hein, il y a quelques instants avec justement ces doutes, ce conflit autour des grandes options de politique économique, ça a été quand même, Jean-Pierre Levade, un moment d'unité, puisque le plan de rigueur a été plutôt accepté une fois qu'il a été acté. Et vous parlez dans votre ouvrage « Réformer la France », justement pour cette époque, d'un moment réformiste. En quoi ça consiste, un moment réformiste, justement, Jean-Pierre Levade, et quelles conditions doivent être réunies pour qu'un gouvernement puisse être qualifié de réformiste?
À nouveau, la lucidité, la vision et la volonté de faire. Alors, je vais revenir sur l'histoire parce que mes deux collègues en donnent une version un peu trop optimiste. Il faut bien voir que le plan de juin 82, on fait quand même quelque chose d'unique, hein, qui n'a jamais été fait où que ce soit à ma connaissance. On a bloqué les prix et les salaires pendant 4 mois, de façon à casser l'inflation. Et simplement, nous n'avions pas conscience au moment où nous avions fabriqué ce plan qu'en fait, par rapport à la situation française et à nos déficits, il était insuffisant. Et donc, nous avons su très vite, dès l'automne 82, qu'il allait falloir faire une rallonge. Et là, nous nous sommes trouvés en opposition frontale avec tout le Parti socialiste et avec François Mitterrand lui-même. Et avec certains de ses soutiens politiques, dont Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy. Donc nous, notre position, c'était il faut rajouter une deuxième tranche au plan de juin 82, qui va être la tranche de mars 83. Les opposants à cette politique, qui étaient majoritaires au sein du parti, étaient pour la sortie de la France du SME, pour garder un franc flottant, pour continuer à dévaluer et pour pouvoir mettre dans l'argent, dans l'économie française, tout l'argent keynésien qu'on pouvait imaginer. Et il ne faut pas oublier que le début de la période chaude de 83 commence par une convocation par Mitterrand de Pierre Monroy à l'Élysée, où il dit à Pierre Monroy: je vous garde comme Premier ministre, on est au lendemain des élections municipales de 83, je vous garde comme Premier ministre, mais nous allons changer de politique économique, nous allons sortir du SME. Et Pierre Monroy lui a répondu: Monsieur le Président, si vous voulez ce changement de politique, il faut aussi changer de Premier ministre, parce que je ne sais pas conduire sur Valglas. Donc l'opposition a été frontale hein, avec Laurent Fabius, Pierre Bérégovoy, une fois de plus, qui était pour l'indépendance française, le franc flottant, les dévaluations à chaque fois que nécessaire, etc. Et là où vous avez raison, c'est que finalement, compte tenu de la bataille qu'a menée Pierre Monroy, frontale, c'est l'argument européen qui a fini par faire basculer François Mitterrand et par faire qu'il change sa position. Mais on n'aurait pas fait le virage de mars 83, la France aujourd'hui, en tant que pays européen, n'existerait plus. Il n'y aurait pas eu d'euro et une fois de plus, nous serions comme le Venezuela.
Alors, vous écoutez France Culture dans le magazine du week-end. Nous évoquons les leçons des plans de rigueur de notre histoire politique pour peut-être mieux comprendre les enjeux du plan d'économie du gouvernement annoncé ce 15 juillet par François Bayrou. Nous en parlons avec Jean-Pierre Levade, Laure Kenwell-Corr et Mathieu Fula. Je vous propose un nouveau bond dans le temps jusqu'au début de la Ve République, le 28 décembre 1958.
Si le budget de la France n'est pas un budget de facilité, mais un budget de sévérité, il n'est à aucun degré un budget de déflation. Il montre combien est fausse et vaine la querelle que l'on veut instituer entre partisans de la rigueur et partisans de l'expansion, car l'expérience a prouvé que l'expansion économique et la rigueur financière sont aussi solidaires que l'avers et le revers d'une même médaille.
Alors, cette voix est celle d'Antoine Pinet, ministre des Finances et des Affaires économiques du gouvernement de Charles de Gaulle, avec Jacques Rueff, inspecteur des Finances. Antoine Pinet a concocté un plan pour faire face à une situation catastrophique de déficit, de dette, de déficit de la balance des paiements. La France était à cette époque sous la surveillance du FMI en ce tout début de la Ve République, fin 1958. D'où ce plan Pinet-Rueff avec une augmentation des impôts, baisse des dépenses de l'État, suppression de subventions, dévaluation du franc. Laure Quesnoël-Corr, ce plan Pinet-Rueff, en quoi consistait-il? Et ça a été, semble-t-il, une réussite.
Absolument. Donc, en fait, ce plan, on lui a donné le nom de Pinet-Rueff, mais finalement, Pinet a endossé ce plan, mais il n'en était pas du tout à l'origine et il n'en approuvait pas toutes les orientations. C'est un plan qui a été concocté par Roger Goetz, qui était directeur du budget à l'époque et très proche du général de Gaulle. Donc, en fait, ce plan répondait en fait à trois objectifs. Il y avait un redressement budgétaire, parce que la France est effectivement dans une situation financière très dégradée, avec un déficit budgétaire supérieur à 1000 milliards de francs, une inflation autour de 15%, un déficit de la balance des paiements, des réserves de change nulles, issues notamment du poids de la guerre d'Algérie sur les finances publiques. Donc, il y avait ce redressement budgétaire auquel... Et l'objectif de stabilisation du franc et de lutte contre l'inflation était également lié. Et enfin, in fine, c'était l'entrée dans la communauté économique européenne au 1er janvier 59. Donc effectivement, il y avait l'idée aussi d'Antoine Pinet de faire à la fois le redressement financier et l'expansion, de sauvegarder l'expansion économique. Donc voilà pour le contexte. Alors les mesures, vous en avez parlé, effectivement, c'était toujours l'idée de... à l'époque, on pouvait dévaluer. Donc, il y a la dévaluation, mais elle était accompagnée de baisse de droits de douane et d'augmentation de certains impôts, d'augmentation du prix des services publics, de réduction des subventions aux entreprises, de suppression des indexations de salaires et de certains produits. Donc. Mais en fait, ces mesures, elles ont pu être mises en place grâce à la légitimité qui a été donnée à la fois par le nom de Pinet, qui inspirait la confiance, et aussi par le général de Gaulle, qui donc, son arrivée au pouvoir en juin 58, et aussi la légitimité, comme je l'ai dit, donnée par le référendum de 58, de la Constitution de 58, avait la force de pouvoir l'imposer. Et ces effets ont été en fait très positifs, mais il a fallu attendre 2 ans. Pour en voir les effets. Il y a eu 2 ans très difficiles pour les Français avec une baisse de la consommation, baisse du pouvoir d'achat. Mais voilà, ça a été une réussite grâce à la personnalité sans doute forte et au courage politique des décideurs de l'époque. Mais je pense que les Français avaient aussi conscience la France était considérée à l'époque comme l'homme malade de l'Europe. Donc voilà, la visite de Per Jacobson, qui était plutôt en 1957, a été effectivement un déclencheur. Et aussi c'était aussi le fruit de toute cette 4e République qui a été finalement financée par l'inflation et la monnaie. Et l'instabilité ministérielle, les Français n'en pouvaient plus de voir tous ces gouvernements qui défilaient et qui ne pouvaient pas agir. Donc voilà, ça a été le fruit de toutes ces décennies de dérives qui a permis effectivement que la France était au bord du gouffre et elle a eu un sursaut.
Alors, Jean Perlevade, est-ce que ce plan, qui était donc un grand précédent, est-ce qu'il était encore présent à l'esprit des décideurs des années 81, 82, 83? Ce redressement des finances publiques, c'était quelque chose que vous aviez en tête à l'époque?
Bien sûr, bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on savait que notre action pouvait réussir. C'est pour ça qu'on était têtu, si je puis dire, qu'on a absolument, on s'est battu et ce qu'il y avait surtout dans ce plan, c'est deux choses très importantes dont j'ai déjà parlé. Un, vous aviez l'incarnation d'une vision de la France par le général de Gaulle lui-même, ce qui est fondamental pour résoudre des problèmes graves. Et deuxièmement, comme l'a dit Laure, tout a été réglé en 2 ans. Hein. Alors 2 ans, ça, c'est long en termes de souffrance. Mais régler un problème pareil en 2 ans, c'est... bon, voilà. Donc, nous savions aussi que nous avions un calendrier court. Donc, nous savions qu'il fallait être résolu, qu'il fallait cogner et que nous avions un calendrier court. Et ce sont toutes ces conditions qui aujourd'hui ne sont plus réunies. Donc, si je peux résumer, nous sommes aujourd'hui, la France est aujourd'hui dans la situation où elle était avant l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir.
Alors Mathieu Fula, effectivement, on passe de 58 à 83 à notre époque. Quel point commun finalement entre ces plans de rigueur et peut-être quelles leçons retenir de ces plans de rigueur qui ont chacun évidemment leur contexte, leurs différences. Il y a peut-être des crises internes à la France, il y a peut-être des crises imposées depuis l'extérieur et puis des réponses à chaque fois qui s'adaptent à ces impératifs.
Alors, si c'est pour faire une comparaison entre le plan Pinet-Rueff, qui a été dont les soubassements étaient bien expliqués, et 81, quand même, en historien, je tiens à dire que les différences l'emportent très, très, très largement sur les continuités. C'est vrai, ce plan met 2 ans à produire ses premiers fruits, mais quand même, on est au tournant des années 60. Les pays ouest européens sont dans un rattrapage des États-Unis avec des taux de croissance très importants. Dans des pays comme l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, on parle de miracles avec des taux qui dépassent les 5% par an. Et la France est également parmi les champions de la croissance à ce moment-là. Donc on est dans une configuration qui est totalement différente de celle du début des années 80. Où, pour la première fois depuis les années 50, l'Europe de l'Ouest fait l'expérience du chômage de masse, un chômage structurel qui est lié à la désindustrialisation, qui est lié à l'apparition de nouveaux concurrents industriels, le Japon bien sûr, mais aussi beaucoup de pays du sud-est asiatique. Donc on est dans un contexte de crise où c'est beaucoup plus difficile de réussir que ça ne l'était dans les années 50.
Donc voilà, limite quand même à ces leçons qu'on peut tirer peut-être des enseignements des précédentes crises. Laure Kenouël-Cor, alors c'est vous qui aurez le mot de la fin, même si évidemment ce débat appellerait d'autres développements. Des leçons quand même de ces grands plans de rigueur du passé. Ce qu'on peut retenir peut-être du plan Pinet-Rueff, c'est l'idée d'un effort qui s'impose à tous.
Voilà, il y a l'idée que, en fait, les Français ont adopté ce plan. Hein. Moi, je l'ai vu un peu dans les enquêtes d'opinion de l'époque. Il y a un consensus qui s'est créé parce qu'il touchait un peu tout le monde. Et le fait que tout le monde soit un peu concerné par ces sacrifices permet de dire bon, voilà, il faut que tout le monde est dans le même bateau, il faut qu'on y aille tous. Et je pense que ça, c'est un point important de chercher un peu, hein, justement, à pas seulement viser tel ou tel. Catégorie sociale ou professionnelle, c'est essayer de que tout le monde se sente concerné pour accepter un plan. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que en fait, c'est par rapport à la différence, c'est que depuis 2008, on a des crises financières importées. Hein, on a la crise des subprimes, ensuite on a eu la crise, ouais. La pandémie, et ensuite la crise énergétique. Et donc c'est très différent. Auparavant, la France était obligée elle-même de répondre à des contraintes et des menaces extérieures, mais c'était des situations qui s'étaient dégradées du fait de facteurs internes à la France. Et donc ça, je trouve que c'est important parce que là, on a un changement complet de paradigme.
C'est important de le rappeler, effectivement. Merci à tous les trois, hein, Jean Perlevade, Laure Kenouël-Cor, Mathieu Fula. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page de notre émission. Émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.